Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
À un mois des élections, l'Allemagne face à son extrême droite, alors que l'Américain Elon Musk attise les tensions. L'environnement et la montée des eaux dans le nord de l'Espagne, des stations balnéaires se préparent. C'est l'ensemble des côtes européennes qui sont en danger. Enfin, notre chronique musique dans la douceur de la soul et de la langue italienne. Voilà le programme aujourd'hui dans Accent d'Europe. Bonjour à tous. À un mois des prochaines élections en Allemagne, le moral est en berne. La croissance faiblit, les menaces de nouveaux droits de douane américains se font plus insistantes, sans parler du patron de X, Elon Musk, qui soutient activement le parti d'extrême droite AfD. Signe des enjeux, la ville de Chemnitz, tristement célèbre pour ses émeutes racistes de 2018, célébrait le week-end dernier le début d'une année spéciale, celle de capitale européenne de la culture. Une ouverture positive qui fait du bien, même si l'AfD est désormais le premier parti au conseil municipal. C'est le reportage de Delphine Herbollier.
Le président de la République, le président de la région de Saxe, la liste des invités de Marc était longue samedi à Chemnitz lors de l'inauguration de cette année culturelle européenne. Pour une fois, c'est en positif que cette ville de 250 000 habitants est dépeinte dans les médias. Car Chemnitz est plus connue du grand public pour le meurtre en 2018 d'un habitant par deux réfugiés et par les émeutes racistes qui ont suivi. Cet été-là, Chemnitz avait fait la une des journaux pour la chasse aux sorcières menée par des groupes de néo-nazis et par la peur qui s'était répandue dans la cité. Depuis, cette mauvaise image colle à la ville, comme le reconnaît son maire, le social-démocrate Sven Schulze.
Les gens en souffrent. Ils disent que Chemnitz a tellement de facettes, or on ne parle que d'une seule. Nous faisons cette année culturelle pour améliorer notre image à l'extérieur, mais nous le faisons aussi pour nous, pour renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Cela commence par là.
Avec ce titre de capitale européenne de la culture, Chemnitz espère attirer 2 millions de visiteurs. Les attentes sont grandes, mais à l'extrême droite, on se montre très sceptique. Samedi, 400 manifestants ont protesté contre cette année culturelle à l'appel du petit parti très radical et indépendantiste, Saxe Libre. Officiellement, l'autre parti d'extrême droite, l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, beaucoup plus influent, n'a pas manifesté. Il ne s'oppose pas à cette année culturelle, mais estime que ce projet répond à de mauvaises raisons. C'est ce que nous explique Nico Köhler, le patron de l'AfD local, entre deux coups de fil dans sa permanence.
On met toujours en avant que Chemnitz est une ville radicale, et même une ville brune. Ce n'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas. Quand quelqu'un se fait tuer à Chemnitz par des demandeurs d'asile, je pense que les citoyens peuvent user de leur droit à manifester.
Pour l'AfD locale, les manifestations de 2018 n'auraient donc rien de raciste et il n'y aurait même pas eu de chasse aux étrangers malgré tous les témoignages inverses. Chemnitz ne serait pas non plus l'arrière-cour de groupes néo-nazis depuis les années 1990, malgré les rapports de police. C'est pourtant ici que dans les années 2000, les trois membres du réseau terroriste NSU ont trouvé refuge sans être inquiétés. Ce réseau a tué 9 personnes d'origine étrangère dans toute l'Allemagne. Nico Köhler se sent au contraire poussé des ailes. Son parti n'a cessé de gagner en influence à Chemnitz. Depuis juin, l'AfD est la première force politique au sein du conseil municipal. Pour Tim Detzner, la situation est tendue, elle l'est même de plus en plus. Il est membre du parti de gauche Die Linke et est actif dans la lutte contre l'extrême droite.
Après 2018, beaucoup de choses se sont passées. De très nombreuses personnes se sont engagées. Les programmes pour soutenir la démocratie viennent essentiellement de l'État fédéral et de la région et ils se sont poursuivis. Ils sont bien ancrés dans la commune, les structures de base se sont maintenues aussi, mais d'une manière générale, la société civile s'est un peu divisée. Il y a aussi eu un changement de majorité au conseil municipal. La démocratie est sous très forte pression.
Depuis les émeutes de 2018, la situation nationale et internationale s'est en effet compliquée. Avec la pandémie et la guerre en Ukraine, la population est de plus en plus divisée. Dans le quartier métissé et défavorisé de Sonnenberg, à Chemnitz, nous rencontrons Alina Lang. Cette jeune femme de 29 ans nous fait visiter le centre culturel ISDA, ouvert l'an dernier et destiné aux migrants et aux étrangers. Pour cette militante, peu de choses ont malheureusement bougé depuis 2018.
Après
2018, il y a eu un processus de dialogue citoyen avec la population, mais il a manqué des choses importantes comme une poursuite judiciaire active des néo-nazis impliqués dans les violences de 2018. À mes yeux, cela n'a pas vraiment eu lieu, sauf envers le groupe Révolution Chemnitz. D'un autre côté, les groupes démocratiques de la société civile qui luttent contre le racisme ou qui soutiennent les migrants auraient eu besoin d'un soutien plus actif. Cela n'a pas eu lieu, du moins pas dans les dimensions qui auraient été nécessaires.
Dans ce contexte difficile, l'année européenne de la culture est perçue comme une vraie soupape, très bénéfique. Mais aura-t-elle des effets sur le long terme dans la lutte contre l'extrême droite? Les militants anti-racisme craignent que cette année se transforme en campagne de marketing.
Le dérèglement climatique et la montée des eaux, on prend cela très au sérieux dans le nord de l'Espagne et particulièrement dans la ville de Zarautz en Cantabrie. La petite station balnéaire vit du tourisme et accueille chaque année 45 000 vacanciers. Mais la mer gagne du terrain. La plage de 2 km de long, la plus longue du Pays Basque, est en danger. Les études prospectives parlent d'une perte de 30% du littoral d'ici 2050. Avec l'aide de l'Union européenne et de la région, Zarautz s'est donc lancé dans un vaste projet pilote pour se protéger. C'est le reportage de Diane Cambon.
Chaque hiver, les tempêtes frappent toujours plus fort sur la grande plage de Zarautz, connue pour être un spot de surfeurs au Pays Basque espagnol. Des vagues qui peuvent atteindre un mètre de haut et qui se déchaînent contre les devantures des boutiques, inondent les bars de la promenade maritime et dévalent même dans les rues adjacentes. Photo à l'appui, le maire de Zarautz, Javier Churuca, montre sur son portable les effets de la dernière tempête.
On a vu la vague atteindre le premier étage de cet immeuble-là. Ici, tous les restaurateurs et hôteliers sont habitués. Ils ont des planches qu'ils placent devant les fenêtres et les portes pour se protéger.
Cette bourgade de 23 000 habitants, 40 000 durant les mois d'été, est particulièrement touché par la montée des eaux de la mer Cantabrique. Adolfo Riarte, directeur du patrimoine national et de l'adaptation au changement climatique au Pays Basque, étudie depuis des années le littoral.
Entre 2021 et 2024, nous avons fait un étude.
Entre 2021 et 2024, on a mené une étude sur les effets du changement climatique sur notre côte, le niveau de la mer durant les grandes tempêtes, et nous avons détecté des points noirs particulièrement menacés sur notre littoral, et Zarautz en est un, non seulement pour sa plage, mais aussi pour sa vulnérabilité urbaine. Les maisons sont construites très proches de la plage.
Pour cet ingénieur, il y a urgence à agir. Si on veut maintenir l'actuelle plage et protéger les 2 km du front de mer où ont été construits dans les années 70 des immeubles de 4 étages.
On sait qu'en 2050, on va perdre 30% de plage si on ne fait rien. Les gens pensent que c'est dommage car ils vont avoir moins d'espace pour pouvoir étendre leurs serviettes. Mais ce n'est pas cela le principal problème. La plage de sable est la principale défense pour éviter les inondations. C'est une digue de protection naturelle, mais comme elle est mobile, il faut la protéger. On pense que 3 à 4 mm par an en moins de sable, ce n'est rien. Mais en 3 ans, cela fait 1 cm. Pensez que la plage a un dénivelé de 1%, c'est facile à comprendre. Si la montée des eaux est d'un centimètre, cela veut dire un mètre de perdu.
Face à l'urgence et afin d'anticiper la disparition du sable, le maire de Zarautz s'est proposé pour accueillir un projet pilote évalué à 1,5 million d'euros, financé à 60% par l'Union européenne. Le maire, Xavier Churuca, prend à cœur ce vaste chantier qui devra commencer cette année.
Là où nous sommes, c'est l'endroit où on va faire les premiers travaux. Durant des années, on a étudié, grâce aux caméras posées tout au long du front de mer, comment évolue la plage, l'impact des marées qui montent et descendent, comment la mer emporte le sable et le transporte. Et on est arrivé à la conclusion que si l'on veut maintenir la plage et le sable comme protection de la montée des eaux pour éviter que les vagues frappent et envahissent les zones urbaines, eh bien, ces escaliers qui descendent sur la plage que l'on voit ici, il faut les détruire, les retirer, car ils participent à la disparition du sable, car les vagues forment un tourbillon et emportent le sable.
Contenir les vagues lors des grandes tempêtes est l'objectif de ce chantier. Le long de la promenade maritime, sur 150 mètres, une digue va être construite également là où les vagues se déchaînent le plus.
L'autre chantier consiste à élever de 50 cm le mur qui sépare la plage du niveau de la promenade maritime. On va placer des botas aguas, ces boucliers en forme de courbe qui renvoient les vagues vers le large et évitent ainsi qu'elles ne dévalent dans la zone urbaine. Pour nous, se retrouver sans plage, ce serait un drame, car c'est le plus grand trésor de Zarautz.
Or, ces grands travaux laissent sceptiques certains résidents de Zarautz, comme ce restaurateur qui tient un bar sur le front de mer, dans la zone la plus touchée par les submersions marines.
Pour moi, c'est de la foutaise tout cela. Il y a toujours eu des grandes marées. C'est beau et cela fait un peu peur aussi. On est inondé, on se protège et puis voilà, cela a lieu tous les 10 ou 15 ans. Cela ne sert à rien de nous mettre encore plus de béton ici. Il faut laisser vivre la mer. Et si cela arrive dans 30 ou 40 ans, eh bien à ce moment-là, il faudra agir, comme à Venise, mais pas maintenant. Ce projet va seulement servir à dépenser de l'argent et ce mur de protection, on va le recevoir sur nous quand les vagues seront folles.
Même Adolfo Uriarte, directeur du patrimoine national, ne cache pas ses doutes.
Oui, ce sont des rustines, car si le niveau de la mer continue à monter comme on le prévoit, entre 80 cm et 1 mètre, eh bien cela ne va pas servir à grand-chose. Mais au moins d'ici 2050, cela devrait permettre de contenir la hausse des eaux à cet endroit-là. On ne sait pas ce qui va se passer, et c'est pour cela que l'on ne peut pas aujourd'hui construire de murs très élevés. Toutefois, je reconnais être assez pessimiste sur l'avenir.
En fonction des résultats, la ville de Zarautz pourrait faire des émules sur la côte basque.
Et la montée des eaux touche l'ensemble de l'Europe. On en parle avec vous, Juliette Garbrand, bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
66 000 km de côte pour l'UE, ce qui nous place parmi les continents les plus impactés par ce phénomène climatique.
Oui, 30 millions d'Européens vivent, Frédéric, dans une zone qui risque d'être inondée d'ici à 100 ans. Sur le continent, le taux d'élévation moyen de la mer est légèrement supérieur à la moyenne mondiale et il s'accélère. On est passé de 1,4 mm par an au XXe siècle à 4 mm par an aujourd'hui. Les côtes de la mer du Nord et de la Baltique sont les plus en danger, avec des endroits critiques un peu partout, localement, y compris bien sûr dans le sud.
Et le danger est aussi économique, Juliette.
D'après l'organisme Novetique, l'élévation du niveau de la mer pourrait coûter 872 milliards d'euros à l'Union européenne et au Royaume-Uni d'ici à 2100. La Vénétie, au nord de l'Italie, pourrait perdre plus de 20% de son PIB et l'Émilie-Romagne, un peu plus au sud, pourrait en perdre, lui, plus de 10%. Les Hauts-de-France, les Pays de Loire et la Nouvelle-Aquitaine, région française de la côte atlantique, pourraient, elles aussi, voir chuter leur PIB de 10%. Mais ça, Frédéric, c'est si rien n'était fait. Or, les collectivités prennent déjà des mesures pour se protéger.
Et on peut dire que les solutions pour lutter contre l'érosion et la montée du niveau de l'eau sont très diverses.
Oui, en Roumanie, où les plages de la mer Noire ont déjà beaucoup rétréci sous l'effet de l'érosion, les autorités ont choisi de les élargir, parfois d'une centaine de mètres, en remontant du sable, donc en prenant sur la mer. Mais le système de loin le plus répandu pour lutter contre l'érosion reste la construction de digues, de brise-lames en épis ou d'autres structures en béton. Sauf que ces constructions sont nuisibles à la faune et à la flore. D'autres options permettent de préserver la biodiversité ou mieux encore de régénérer les écosystèmes avec par exemple des digues végétalisées ou faites de matériaux sur lesquels les organismes vivants peuvent se développer. Il faut enfin aussi préserver et revégétaliser les dunes et les bordures côtières.
Et puis il y a un enjeu énorme qui concerne les constructions mais aussi le patrimoine.
Les sites historiques de Venise, de la cité médiévale de Rhodes en Grèce ou encore de Syracuse en Sicile sont en danger. En fait, sur les 49 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO qui sont sur le pourtour de la Méditerranée, 42 sont menacés. Et dans ce domaine, les mesures à prendre sont beaucoup plus radicales. Déplacer des constructions et le cas échéant leurs habitants, déplacer des monuments, enfin limiter drastiquement la construction. Au Danemark, un phare centenaire a été déplacé, Frédéric. Plus près de nous, à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, d'ici à 2043, 5 campings, 7 bars et restaurants, des habitations, des routes et une station d'épuration sont menacés. Le camping va être déplacé et les eaux usées sans doute traitées ailleurs. Et c'est bien sûr pour les particuliers sans doute que le problème est le plus douloureux. Dans différents pays, il y a des cas où des maisons trop près des côtes devront être abandonnées ou détruites.
Merci Juliette Garbrand.
Musique.
Et on vous retrouve, Vincent Théval, pour la chronique musique. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Vous nous emmenez en Italie avec Marianne Mirage, tout un programme.
Derrière l'étonnant pseudonyme de Marianne Mirage se tient l'autrice-compositrice italienne Giovanna Gardelli, qui est originaire de Cesena, en Émilie-Romagne, à quelques kilomètres de la côte adriatique. C'est là qu'elle grandit et se découvre très tôt une passion pour la musique, et notamment pour les grandes voix du jazz et de la soul. Après l'obtention d'un diplôme de l'École nationale du cinéma, elle se lance dans la chanson en 2014 et publie deux albums et quelques titres pour des bandes originales de films. Aujourd'hui, Marianne Mirage sort un très beau troisième disque, Teatro, un ensemble de chansons luxuriantes et introspectives, comme cette vénérée, vibrante appel à l'amour universel, la générosité et la sensibilité.
Senza cuore. Senti come trema tutta la paura sulla bicicletta, donna e bambina, come sei cambiata, è cosa della vita. Aspettiamo l'esplosione, venere che porta amore.
De Marianne Mirage sur Accent d'Europe. L'émission était réalisée par Théo Raison. Retrouvez-nous sur notre site et sur l'application Pure Radio. À demain.